Bonsoir à toutes et à tous et excellente rentrée. Merci de nous retrouver sur Radion une fois de plus et merci de monter à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Deux invités ce soir, tout d'abord l'académicien Jean-Christophe Ruffin pour son roman Le Grand Cœur, paru chez Gallimard, et puis à partir de 21h30, en deuxième partie de notre émission, un entretien avec un des animateurs du jeu télévisé des chiffres et des lettres, Bertrand Renard. Nous évoquerons avec lui la longévité exceptionnelle de cette émission diffusée sur France 3 et vous y apprendrez d'ailleurs que le monsieur calcul de l'émission de France 3, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est un littéraire de formation mais également un écrivain. Rendez-vous donc en deuxième partie de Wagon Livre. Mais d'abord, ce soir, rentrée exceptionnelle en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Un invité effectivement d'exception pour ce 79e numéro de votre rendez-vous culturel sur Radion. En effet, le plus jeune des membres de notre Académie française a fait paraître, il y a quelques mois, un roman historique chez Gallimard, un roman consacré à Jacques Coeur, celui qui devint au XVe siècle le grand argentier du roi Charles VII et l'amoureux transi d'Agnès Sorel. Une vie édifiante, passionnante et tourmentée. Jean-Christophe Ruffin, médecin pionnier de l'action humanitaire, voyageur, écrivain bien évidemment, est l'auteur de romans désormais classiques tels que L'Abyssin, Globalia ou Rouge Brésil qui décrocha en 2001 le prix Goncourt. Jean-Christophe Ruffin sera d'ailleurs, les 29 et 30 septembre prochains, le président de la 5e édition de Livres en Vigne qui se tiendra au château du Clos de Vougeot, mais on aura l'occasion de vous en reparler, un très très beau salon au cœur du vignoble, salon dont l'entrée est libre et gratuite, retenez bien les dates, les 29 et 30 septembre prochains. Mais ce soir, place à Jean-Christophe Ruffin, l'entretien s'ouvre d'ailleurs sur le constat que le statut d'écrivain s'avère plus confortable que celui d'ambassadeur, poste qu'exerça Jean-Christophe Ruffin au Sénégal de 2007 à 2010.
Et comme disait Napoléon, on écrit sur de la peau humaine quand on s'occupe de politique et c'est plus sensible évidemment que le papier.
Alors vous avez un point commun avec le héros de votre roman, Jacques Coeur, c'est que vous êtes tous les deux originaires de Bourges et la maison natale de Jacques Coeur était très proche de la propre maison qui était la vôtre enfant.
Oui, le centre-ville de Bourges, c'est un peu comme à Dijon, c'est un centre qui est évidemment très concentré et en effet tout est très proche. Donc quand j'étais enfant, je passais devant cette maison et devant le palais d'ailleurs que Jacques Coeur a construit après à sa maturité. Et ça faisait partie du décor de mon enfance, du décor quotidien de mon enfance.
Vous expliquez finalement que Jacques Coeur a eu une influence sur votre vie. Je vous cite, « Pendant mon enfance rude et grise, il fut celui qui me montrait la voie, témoignait de la puissance des rêves et de l'existence d'un ailleurs de raffinement et de soleil. » Finalement, tout comme lui aussi, vous étiez un rêveur, vous essayiez de vous propulser vers un ailleurs exotique, loin des brumes, etc. Cette atmosphère grise de Bourges.
Oui, c'est-à-dire que, vous savez, on reconstruit toujours son enfance après, a posteriori. Bon, moi, je suis né quand même, il ne faut pas l'oublier, après la guerre. Jacques Coeur, il est né plutôt vers la fin de la guerre de Cent Ans.
En 1400.
Il est né autour de 1400, on ne connaît pas exactement sa date de naissance. On connaît la mienne, en revanche. Moi, je suis né en 1952, mais donc c'est très proche encore de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que dans cette époque, des villes comme Bourges, qui étaient d'ailleurs situées pendant la guerre sur la ligne de démarcation, étaient des villes qui avaient beaucoup souffert et qui avaient une certaine forme de, j'allais dire, d'écart par rapport au progrès. C'était des villes qui étaient restées un peu confites dans leur passé, avec évidemment un climat un peu particulier, puisqu'on dit qu'il y a un microclimat à Bourges qui fait qu'il pleut souvent là-bas, plus souvent qu'ailleurs. Voilà, donc tout ça, effectivement, a donné un peu de... A posteriori, me donne l'impression que cette enfance a été assez grise. Bon, et puis en plus, j'étais élevé par des grands-parents qui étaient âgés, etc. Donc, je me suis accroché ou raccroché à des choses qui pouvaient représenter une forme d'évasion. Et en effet, la figure de Jacques Coeur, parmi d'autres, mais était une des figures qui me laissait penser que, ben, il pouvait peut-être y avoir un ailleurs. C'est Jacques Coeur, c'était l'homme de sa maison natale, mais aussi donc de son palais. C'est-à-dire qu'entre les deux, ben, il y avait eu le voyage, il y avait eu
une ascension l'Orient,
une ascension sociale, tout ça qui permettait à l'enfant que j'étais, effectivement, de penser qu'on pouvait s'extraire du monde dans lequel on était, et peut-être par le rêve ou par le voyage ou par les deux, d'ailleurs, se retrouver dans une autre condition.
Alors parlons de Jacques Coeur. Donc il part du peuple et il va s'élever jusqu'au roi, puisqu'il va faire partie à un moment du conseil de Charles VII. Des parents, un père qui est artisan fourreur, une mère...
Fille de boucher.
Fille de boucher, effectivement. Et lui, il rêve en tout cas d'une ascension sociale. Et il va devenir un puissant. Enfin, on le présente souvent... à tort, comme le ministre des Finances de Charles VII, qui est une erreur.
Oui, c'est une erreur. En fait, jusqu'à 30 ans, ce qui est assez tard pour un homme du Moyen-Âge, il n'a pas fait de choses extraordinairement brillantes. Jusqu'à 30 ans, bon, il s'est marié avec sa voisine qui était un peu plus riche, mais toujours de milieu bourgeois. Les parents, ses beaux-parents, étaient donc des gens qui appartenaient au milieu de l'argent, c'est-à-dire les changeurs, les monnayeurs, mais enfin, ça restait des bourgeois. Et jusqu'à 30 ans, Jacques Coeur n'a pas fait des choses extraordinaires. Et puis à 30 ans, et un petit accident, il s'est retrouvé en prison pendant quelques mois. Et là, effectivement, à la suite de ça, il se sentit, en quelque sorte, il a senti que son honneur était entaché, et il a décidé de prendre du champ, de partir. Il est allé à Montpellier, et le hasard a voulu qu'il a rencontré un bateau, il a trouvé un bateau là-bas qui partait pour l'Orient, et c'est là, à 30 ans, que sa vie va changer, en effet.
Alors, il y a cette découverte de l'Orient, ces Beyrouths, ces Damas, ces fabuleux jardins. Alors, là aussi, il y a un chapitre absolument magnifique qui nous sort de notre griserie du quotidien. Là, on est vraiment dans l'exotisme grâce à ce souffle à la fois de la narration et de l'histoire. Parce que, quelque part, aujourd'hui, on n'a plus la possibilité d'aller découvrir le monde. Le monde est découvert, maintenant.
Oui, c'est ça. Ben, je pense que ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné dans les différents livres que j'ai écrits. Que ce soit au Brésil, l'Abyssinie, etc., c'est l'idée de la première rencontre, c'est-à-dire du monde vierge, si vous voulez. Alors, je ne parlerai pas forcément de découverte, parce que vous connaissez la polémique au moment de la célébration de la découverte, entre guillemets, du Nouveau Monde. Les Indiens ont dit, mais c'est nous qui a découvert qui. Finalement, on existait avant qu'on soit découvert. Donc, je ne dis pas que ce soit... Que ce sont des découvertes, mais ce sont en tout cas des moments, et c'est le cas quand Jacques Coeur arrive en Orient, où se produit un vrai contact, j'allais dire un peu vierge, quoi, dans lequel il n'y a pas eu tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire ces décennies, ces siècles même d'histoire commune qui ont faussé les relations. Qu'il s'agisse du premier contact avec l'Abyssinie, j'avais décrit dans un livre qui s'appelait l'Abyssin, le premier contact des Français avec le Brésil,
Goncourt
2001. Ben, c'est toujours cette première rencontre, parce que je trouve qu'il y a là quelque chose de très poétique, souvent, une espèce de fraîcheur du regard, si vous voulez, qui à la fois est très riche, parce qu'il contient en germe tout ce qui va se produire par la suite, et en même temps, je pense que c'est un peu comme dans le regard amoureux, finalement, c'est comme la rencontre amoureuse. Bah, le premier regard contient peut-être en germe tout ce qui va se produire par la suite, mais il est aussi très plein de naïveté, de pureté. En tout cas, on accueille l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un inconnu qui va devenir familier, mais qui ne l'est pas encore. Voilà. Donc il y a tout ça dans cette première rencontre.
Il y a aussi chez Jacques Coeur une déformation physique qui semble être une déformation de naissance. Il a le thorax enfoncé.
Oui, alors ça, c'est un... Voilà, je voulais... Bon, on n'a pas de portrait, Jacques Coeur, donc on n'a que des renseignements très indirects sur ce qu'il est. Mais j'avais été frappé, en lisant ses biographies, puisqu'il y en avait plusieurs, par le fait qu'il était toujours décrit comme un homme calculateur, une sorte d'homme d'argent. Voilà. Et moi, je pensais que c'était d'abord un rêveur. Et donc, c'était quelqu'un, vous savez, c'est faisait partie de ses enfants qui ne pouvait pas se battre avec les armes des autres. Quand il était petit, on lui tapait dessus, il ne pouvait pas répondre en tapant sur les autres. Il fallait qu'il ait quelque chose qui le rende un petit peu plus vulnérable peut-être, et qui le contraigne à chercher dans l'esprit finalement les armes qu'il n'avait pas dans le corps. Voilà. Alors il aurait pu être asthmatique, il aurait pu... Bon, j'imaginais qu'il avait cette déformation un peu secrète. Pourquoi ? Parce que... Alors j'en ai pas la certitude bien entendu, mais c'est quelque chose qui à la fois l'isole un peu des autres, le rend vulnérable, lui donne une certaine forme de complexe, et puis le fait que, voilà, il compense par l'intellect, il compense par l'esprit, par le rêve.
Il est vraiment un adepte du nomadisme, il est tout le contraire de l'immobilité, il n'est pas du tout statique. Vous écrivez dans le roman, donc Le Grand Cœur, pour voir bouger les choses, il fallait bouger soi-même.
Ben oui, parce qu'à cette époque-là, c'est vrai que le monde ne venait pas à vous. C'est une France, il ne faut pas l'oublier, on est à Dijon, coupé en trois, dans lequel vous avez la France anglaise, hein, tout le nord et l'ouest. Vous avez la petite France de Charles VII, qui est une petite part de Camembert, dont la pointe est à Bourges, et puis la base est au Languedoc, dans le Languedoc. Et puis vous avez le duc de Bourgogne, la dynastie des ducs de Bourgogne, qui sont très, très indépendants. Et vous savez que Charles VII est un des éléments de sa disgrâce, notamment par rapport à sa mère, c'est l'assassinat de Jean sans peur. C'est cette terrible épisode du pont de Montreux où le duc de Bourgogne sera assassiné par les amis de Charles VII. Donc c'est une France coupée en trois. Chaque parti est en plus morcelé par des brigands. Donc le monde ne vient pas à vous. Et pour le découvrir, il faut en effet bouger.
Vous êtes bien sur le 90.5 ou... Peut-être nous écoutez-vous via Internet sur le www.radion.fr. Nous allons marquer une première étape puisque nous vous proposons d'écouter France Gall et Babacar. Nous nous retrouverons ensuite en compagnie de notre invité Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française pour son roman paru chez Gallimard, Le Grand Cœur.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance. Ou Dieu qui nous fout droit, et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout avec danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance. N'arrive pas sans cette délivrance. Nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence et que c'est sur nos tombes que le désert avance. Thank you.
Radion. Radion.
Votre rendez-vous littéraire chaque mercredi à 21h sur votre radio locale, c'est Wagon Livre. Nous accueillons ce soir Jean-Christophe Ruffin pour Le Grand Cœur, son dernier roman paru chez Gallimard il y a quelques mois. Jacques Cœur se trouve, en fait, Jean-Christophe Ruffin, vivre au milieu d'un royaume de France très agité. Et finalement, vous nous présentez un personnage, Jacques Cœur, dont l'activité est liée à l'argent et au commerce, et finalement c'est l'ancêtre du capitalisme.
C'est l'homme qui a, au fond, peut-être créé une forme de la première mondialisation, d'une certaine manière, mondialisation de son époque, c'est-à-dire le monde de l'époque, qui évidemment ne comportait pas l'Amérique, bien sûr, mais pour le reste, il a étendu son réseau d'échanges sur l'ensemble du monde connu de l'époque. Et capitalisme, oui, mais capitalisme assez primitif, dans la mesure où les fonctions qui aujourd'hui sont séparées était concentré dans le même homme. C'est-à-dire que Jacques Cœur était à la fois un producteur, on dirait aujourd'hui, par exemple producteur de soieries, il était associé à des soyeux, notamment à Florence. Il était un transporteur, avec ses barges, ses bateaux, ses bateaux de sel sur le Rhône, etc. C'était un collecteur d'impôts, par exemple de la Gabelle, toujours sur le Rhône. C'était un vendeur en gros, avec l'argenterie. L'argenterie, c'était une énorme entrepôt de fourniture de la cour, mais un vendeur au détail aussi. On a des pièces dans lesquelles il vend effectivement une paire de souliers à quelqu'un. Bon, et c'était un banquier, c'est-à-dire quelqu'un qui prêtait de l'argent. Donc des fonctions qui, dans le capitalisme moderne, sont séparées. Lui, eh bien, dans cette période un peu primitive d'un archéo-capitalisme, finalement, il les concentrait entre ses mains.
Mais il n'est pas incorrect de dire que Jacques Cœur n'aurait pas existé sans Charles VII, et Charles VII n'aurait pas réussi à asseoir son autorité sans Jacques Cœur. Oui, les deux hommes sont indissociablement liés.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ils ont beaucoup de choses qui les séparent, notamment le caractère. Et je pense que Jacques Cœur, dès le départ, a vu que Charles VII était un homme en qui on ne pouvait pas avoir confiance.
Oui. Il le présente souvent comme méchant et mauvais.
Mais c'est vrai, c'est un homme qui a abandonné Jeanne d'Arc, qui a laissé assassiner beaucoup de ses collaborateurs, qui a trahi tout le monde, Jacques Cœur en premier. Donc c'est un homme qui n'est pas fiable, on dirait aujourd'hui. Et en même temps, quand il rentre d'Orient et qu'il a la préscience de ce grand réseau d'échanges qu'il va monter, Jacques Cœur sait qu'il lui faut un partenaire public, on dirait aujourd'hui. Il lui faut à la fois des commandes publiques, il lui faut de l'argent public, et il faut aussi que la France soit en paix pour que l'échange puisse se faire sans qu'il y ait tous les obstacles dont on parlait précédemment. Donc il va jouer une carte. Alors cette carte, ça aurait pu être celle des Anglais, ça aurait pu être le duc de Bourgogne. On a d'ailleurs à certains moments pensé qu'il jouait double jeu et qu'il avait des liens avec le duc de Bourgogne. Mais en tout cas, la carte principale, ce sera avec Charles VII. Et ils vont faire alliance. C'est une sorte d'attelage mutuellement bénéfique, en tout cas pendant longtemps, qui permettra à Charles VII de financer sa guerre et de reconquérir son royaume, et qui permettra à Jacques Cœur de s'adosser à une puissance publique très forte pour monter son entreprise de commerce.
Et j'ai beaucoup aimé la rencontre. La première rencontre dans une grande salle obscure entre Jacques Cœur et le roi Charles VII, qui se trouve assis dans un coin de la pièce, et quelqu'un lui avait dit « Tu verras, il va te flairer ». C'est authentique, cette histoire de Charles VII qui flaire les gens à distance avant de rentrer en contact avec eux.
Ça, c'est authentique. Charles VII, comme moi d'ailleurs, avait un grand nez, mais on dit qu'il était... C'est quelqu'un qui flairait, qui avait un côté animal. Il était très peureux, il a eu des tas de déboires dans son enfance, on a failli être assassiné, etc. Chacun se souvient aussi de cette scène qui a été mise en scène dans plusieurs films, où il reçoit Jeanne d'Arc la première fois au château de Chinon, il se déguise en courtisan, il se cache parmi les autres courtisans pour voir si elle va le reconnaître. Bon, Charles VII est habitué à ce genre de procédé dans lequel, il se protège.
Il a peur,
il évalue l'autre. Et là, je l'ai mis en scène d'une manière un peu particulière, qui est en effet l'obscurité, parce qu'il recevait souvent les gens la nuit, à n'importe quelle heure. On ne savait pas d'ailleurs s'il venait de se réveiller ou s'il allait se coucher. Et en effet, avant de leur donner on ne peut même pas dire sa confiance, parce que je ne pense pas qu'il ait fait confiance à quiconque dans toute sa vie, mais en tout cas, disons, de s'approcher d'eux et commencer par essayer de les flairer. Voilà.
Puis c'est amusant parce qu'il y a cet adage « l'argent n'a pas d'odeur », Jacques Coeur, argentier, et ce roi qui flaire, c'est assez amusant.
Oui, c'est une manière de présenter. Moi, si vous voulez, je n'aime écrire tout ça, et toutes ces histoires. Je suis un conteur fondamentalement quand même. J'aime mettre en scène des choses. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut comprendre des choses, les événements, que si on les incarne, et si on les met en scène. C'est-à-dire que si on a une idée des sons, des couleurs, des portraits, des odeurs, etc., et que les choses deviennent à ce moment-là présentes. Voilà. Je pense que la puissance du roman, c'est justement de s'écarter de l'histoire au sens du passé, si vous voulez, et de remettre tout ça dans le présent. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur soit dedans. Et pour qu'il soit dedans, eh bien, il faut le conduire scène par scène. C'est une assez vieille méthode, finalement, très classique, mais qui, je trouve, il n'y en a pas de meilleure, en tout cas.
En tout cas, Jacques Coeur est vraiment un homme remarquable, pas si attaché que cela à l'argent, c'est plutôt un spirituel. C'est quelqu'un qui semble être dans l'idéal et quelque part un homme de progrès. Et il incarnerait peut-être la fin d'un Moyen-Âge un peu, ce qu'on appelle les Dark Ages, en anglais d'ailleurs, les temps obscurs. Et il est beaucoup question de lumière. Il y a une thématique de la lumière qui est omniprésente, à certains moments de votre roman, la lumière, la clarté. Oui. Et il est plutôt ce Jacques Coeur, celui qui aimerait conduire une nouvelle société française vers un monde plus moderne, moins archaïque.
Alors, je ne sais pas s'il l'a voulu, en tout cas c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que le bilan de son action, c'est celui-là. Il a en effet fait partie, en première ligne, je dirais, des gens, des hommes qui ont accouché d'un autre monde. D'abord un monde de paix, c'est-à-dire que cette génération de Charles VII, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, enfin. Ça va être la reconquête, ça va être l'entrée à Paris, à Rouen, enfin les Anglais chassés du territoire, la paix avec Bourgogne, etc. Donc c'est une période de paix. C'est une période de progrès parce que, justement, à travers ce réseau d'échanges, beaucoup de choses vont venir d'Orient ou d'Italie. La France va se tourner vers la Méditerranée, va se tourner vers l'Italie, vers les pays du Levant. La chute de Constantinople va faire venir en Occident beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes de culture qui étaient à l'époque dans cette Rome occidentale, orientale, je veux dire. Voilà, donc c'est une période nouvelle. Et Jacques Coeur, il est exactement situé à ce moment. Mais quant à dire qu'il l'a voulu, ce serait un peu anachronique, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Ma thèse, moi, c'est que, au fond, s'il avait uniquement voulu être riche, il n'avait pas besoin de se fatiguer autant, il n'avait pas besoin de prendre autant de risques. Il aurait pu faire comme les autres, spéculer sur la rareté des choses et puis rester tranquille chez lui, ou en tout cas pas très loin. En fait, quand on regarde l'étendue du réseau d'échanges qu'il a mis en place, on se rend compte qu'il a fallu quand même qu'à un moment donné, il soit visionnaire. C'est-à-dire que quand il est rentré d'Orient, alors qu'il n'a pas un sou, il a fait naufrage, et on lui a dépouillé de tout, il dit « je suis riche » parce qu'il est riche non pas d'argent, mais d'une idée. Et cette idée, il va méthodiquement la réaliser et faire finalement accoucher de ce monde nouveau dont il ne profitera pas.
Alors il est aussi, il est fasciné par l'Italie. Hein, c'est notamment Florence avec la beauté de ses palais, le Duomo. Et là aussi, en Italie, il apprend, je vous cite, à faire la différence entre l'art des artisans qui était d'un grand raffinement et l'art des artistes dans lequel se reflétait autre chose, le génie, l'exception, la nouveauté.
Oui, parce que dans la France de la guerre de Cent Ans, il y avait des artisans, on en a toujours conservé, notamment le père de Jacques Coeur, les fourreurs, on l'a dit tout à l'heure, Pelletier, mais il y avait très peu d'artistes. Il y avait eu des artistes, ou tout au moins de grands bâtisseurs, au XIIe siècle, avec les cathédrales, etc. Et puis il y a eu cette horrible période donc de la guerre des pestes, etc., le XIVe siècle dévastateur. Et au fond, Jacques Coeur fait partie de ceux qui vont redécouvrir l'art, mais l'art au sens de l'individu, c'est-à-dire non pas de l'art en tant que savoir qui se transmet comme ça d'une génération à une autre, dans une guilde, dans une corporation, mais de l'art individuelle qui peut éclater dans un tableau, dans une sculpture, dans une pièce de musique.
C'est la rentrée littéraire ce soir sur votre radio locale. Le Wagon Livre accueille Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Et un vent d'histoire souffle sur les ondes de Radion grâce au roman de notre invité qui met en scène Jacques Coeur, le négociant fortuné du XVe siècle. Place à la musique, en effet, on vous laisse en compagnie de Charles Aznavour, que c'est triste Venise.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Nous retrouvons le XVe siècle. Jacques Coeur est notre invité. Il est ce soir question du Grand Coeur, le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin, membre de l'Académie française. Jacques Coeur, quand bien même il est marié, on a le sentiment, Jean-Christophe Ruffin, qu'il se sent plutôt seul.
Alors ça aussi c'est un fait historique, c'est-à-dire qu'il est resté marié toute sa vie, sa femme est morte pendant qu'il était en prison. Ils ont élevé leurs enfants, etc. Mais enfin, il ne l'a pas vu beaucoup, parce qu'il était tout le temps sur les routes. Et on peut supposer quand même qu'il y a eu d'autres choses, d'autres aventures, d'autres histoires dans sa vie. Sans doute pas pour elle, parce qu'elle, elle était vraiment toujours au même endroit. C'était une femme très pieuse, qui avait tout placé dans la religion, et notamment une ambition pour ses fils, dont l'aîné d'ailleurs deviendra archevêque de Bourges. Mais lui, Jacques Coeur, s'est beaucoup détaché de tout ça, et avec une vie aussi mouvementée, on peut imaginer qu'il y avait d'autres femmes dans sa vie.
Il n'est pas très frotté de religion.
Non, alors ça c'est difficile de le dire. Moi c'est ce que j'ai pensé, parce que beaucoup de choses m'ont laissé penser qu'en effet, ça n'était pas un homme fondamentalement pieux. En tout cas, il était beaucoup moins que sa femme, par exemple, ou même qu'Agnès Sorel, d'ailleurs. Il était beaucoup plus porté sur les choses matérielles, je dirais, et sur une forme de, voilà, de comment dirais-je, assez concrète de pensée sceptique, on pourrait dire, aujourd'hui. Il a été très influencé par des événements comme, par exemple, les écorcheurs, c'était cette révolte des bouchers au début du XVe siècle, dont il a eu l'écho à travers, par sa mère, qui était fille de boucher. et qui était une révolte finalement assez moderne de gens qui voulaient, au fond, casser l'ordre féodal. Donc cet ordre féodal et tout ce qui le sous-tendait, notamment la religion, eh bien, Jacques Coeur en était l'ennemi. Donc on peut imaginer qu'il était lui aussi... Parce que ceux qui soutenaient l'ordre féodal adhéraient, disons, à son fondement religieux. Dieu avait créé les nobles, les hommes, de toute façon, dans ces trois ordres de la chevalerie, de la prière et du travail. Et Jacques Coeur fait partie de ceux qui vont casser cette idée-là et faire émerger un monde beaucoup plus laïque.
Mais il a du mal à trouver sa place, parce que quelque part, il est fils de bourgeois, on va dire.
Oui.
Il est considéré comme un bourgeois, il n'est pas membre de l'aristocratie, pourtant il est richissime.
Il devient noble, on l'a anobli de toute façon. Il a été anobli par le roi avant d'entrer au conseil, mais ça ne fait illusion à personne. C'est-à-dire que la vraie noblesse de l'époque, c'est la noblesse des croisades, c'est la noblesse des princes.
Celle qu'il accuse d'avoir ruiné le royaume.
Ben oui, parce qu'on est dans une période charnière, là encore, où ces princes vont s'effacer et où des bourgeois vont faire alliance avec le roi contre la féodalité. Et au fond, c'est une période assez sensible dans laquelle on voit que la notion même de valeur est en train de changer. Dans la féodalité, la valeur, c'est la terre. Et à partir de Jacques Coeur et de Charles VII, la valeur, c'est le travail et l'échange. Et donc, c'est un changement complet.
Il y a quelques minutes, vous avez parlé d'Agnès Sorel. Il faut tout de même parler de cette femme qui joue un rôle important dans la vie sentimentale de Jacques Coeur. Alors, elle est la maîtresse du roi Charles VII et finalement, clandestinement, ils vont réussir à...
Alors, là encore, il faut essayer de construire quelque chose à partir d'indices épars. Bon, il est certain qu'Agnès a été la maîtresse de Charles VII, bien entendu. Elle a été pour des raisons d'ailleurs politiques. Elle a été mise dans le lit du roi. C'était une femme qui est morte jeune, qui est morte à 28 ans, très bien élevée, qui a été mise par Charles d'Anjou dans le lit du roi pour lui servir en quelque sorte d'agent. Bon. Donc elle part de là et puis elle va acquérir petit à petit son autonomie. Et elle va acquérir son autonomie d'abord en prenant sur le roi un empire, vraiment une puissance très forte. Le roi va devenir fou d'elle. Et puis en s'assurant de l'amitié d'hommes bien placés autour du roi, avec lesquels elle va créer une sorte de relation privilégiée qu'elle voit à la fois protégée et quand elle mourra... peut-être empoisonné, on ne sait pas très bien. En tout cas, ces hommes vont tomber assez vite en disgrâce. Donc on voit bien qu'elle les protège. Et puis en même temps, eux la soutiennent, et notamment financièrement, Jacques Coeur. Donc c'est une relation très proche. Jacques Coeur sera son exécuteur testamentaire. Il aura un énorme chagrin à sa mort, etc. Ils sont très proches. Alors quelle est la nature de cette relation? C'est quelque chose qu'il faut construire, j'allais dire, de façon... littéraire, bon, et en lui donnant un contenu, pour autant que voilà qu'on puisse l'imaginer. Mais là, je laisse le lecteur découvrir ça tout seul.
Si nous ne disposons pas de portrait de Jacques Coeur, en revanche, il existe un portrait.
Ah oui, plusieurs.
D'Agnès Sorel.
Plusieurs.
Et par Jean Fouquet. Donc.
Voilà, il y a le portrait le plus célèbre par Fouquet, enfin, dont on suppose d'ailleurs, parce que ça n'est pas absolument avéré, mais enfin, puisqu'il est postérieur, il a été peint après la mort d'Agnès. Mais ce fameux portrait dans lequel elle montre le sein et elle est entourée d'anges rouges, comme ça, elle est représentée en vierge avec un diadème de diamants et d'émeraudes et de perles. C'est un tableau célébrissime de Jean Fouquet, qui est très proche dans les traits d'Agnès, enfin dans les traits du personnage du tombeau d'Agnès. Donc on peut imaginer que c'est elle. Là, on a quelque chose à quoi s'accrocher. Ce qui est certain, c'est que tous les témoignages du temps disent qu'elle était très belle, elle était très jeune, très pieuse aussi d'ailleurs, avec une piété presque, on pourrait dire, enfin, une foi de charbonnier, c'est-à-dire avec un attachement à certains objets de la foi. Par exemple, elle voulait recevoir du pape un autel portatif, des choses comme ça, auxquelles elle s'accrochait. Et c'est une femme extraordinairement attachante. Enfin, moi, j'ai été... Je pense que c'est peut-être dans le livre, dans tout le livre, ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'irruption de cette femme qui est à tous égards exceptionnelle.
Alors apparemment, si je vous ai bien lu, Jean-Christophe Ruffin, Jacques Coeur aurait possédé un château en puisée. Ça nous intéresse, nous, dans le département
oui.
de l'Yonne.
Ah, mais il en avait même beaucoup. Il en avait même beaucoup. Alors, il y a une carte très précise des propriétés de Jacques Coeur qui a été établie pendant son procès, enfin après son procès, puisqu'il a été condamné à mort, mais aussi à une très lourde amende. Et très rapidement, le roi s'est rendu compte que les deux condamnations s'excluaient l'une l'autre, parce que si on le tuait, il ne pourrait pas payer. Donc on l'a épargné, de toute manière. On lui a pris ses biens, notamment ses châteaux, dont on a fait une cartographie très précise. Et puis, il a été condamné à une amende très lourde qu'il a fallu qu'il essaie de payer par la suite. Et donc, on a le procureur d'Auvay qui a été chargé d'établir une sorte de relevé des propriétés de Jacques Coeur, a bien montré la densité de ses propriétés, incroyablement nombreuses, et particulièrement dans la région de la Puisée, en effet.
Alors, on sait que vous avez été donc ambassadeur de France au Sénégal. Est-ce que vous seriez prêt à reprendre un poste d'ambassadeur dans un pays africain si, par exemple, le Premier ministre ou le gouvernement socialiste vous le demandait ?
Non, parce que, si vous voulez, c'est très clair. D'abord, parce que dans un pays africain, j'ai eu l'honneur, le privilège d'être ambassadeur dans notre plus grande ambassade en Afrique. Donc tout ce qu'on pourrait me proposer aujourd'hui serait, j'allais dire, une sorte de réplique, mais en plus modeste de ce que j'ai déjà fait. Donc je n'ai pas tellement envie de recommencer comme ça. D'autre part, c'est une expérience assez difficile, même très difficile, que j'ai faite non pas par souci de carrière, mais peut-être par curiosité de romancier, c'est-à-dire que c'est un défi d'abord à relever. Et puis, c'est quelque chose d'extraordinairement instructif, parce qu'on voit le monde autrement. Et je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard si j'ai écrit un livre qui quand même parle du pouvoir, parce qu'au fond, Jacques Coeur a été très proche du pouvoir dans sa vie. Il a aussi payé le prix de cette proximité. Il est tombé en disgrâce, etc. Et en ayant été ambassadeur, j'ai fait un peu l'expérience de ce métier, puisque un ambassadeur, c'est quelqu'un qui relie des pouvoirs, en fait, hein, qui relie deux pouvoirs, au moins deux, parfois plus, et qui donc s'en approche à ses risques et périls, bien sûr, notamment quand on est, comme je l'étais, au cœur des relations entre la France et l'Afrique qui sont, comme chacun sait, très complexes.
Ah, est-il vrai que vous agaciez un petit peu le président sénégalais et que c'est lui qui, finalement, aurait demandé à ce que quelqu'un plus en conformité avec le métier de
diplomate ? Il l'a demandé souvent, ça lui a été refusé. Moi, je suis resté 3 ans, c'est-à-dire plus que la plupart de mes prédécesseurs et plus que mon successeur. Donc j'ai résisté, si vous voulez. Simplement, je considérais que mon métier n'était pas de dire oui à tout, mais de faire en sorte que on préserve les intérêts à la fois de nos deux pays, mais surtout du peuple sénégalais. Vous savez que dans un pays africain, le grand ennemi, c'est la corruption. Et c'est vrai que quand j'ai formulé un certain nombre de remarques sur ces sujets, je ne me suis pas forcément rendu très populaire. Mais je le suis aujourd'hui parce que le président en question est tombé à la suite des élections. Et celui d'aujourd'hui est un ami proche. Donc je crois qu'on me rend justice aujourd'hui d'une certaine fermeté par rapport aux dérives du pouvoir de l'époque.
Une belle page d'Histoire de France avec Le Grand Cœur, le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin que vous venez d'entendre il y a quelques minutes sur Radion. Alors, laissez-vous appâter par le parcours exaltant de l'énigmatique Jacques Coeur, devenu au XVe siècle l'homme le plus riche d'Occident. Pour information, Jean-Christophe Ruffin sera le président de la 5e édition de Livres en Vigne, organisée en Côte d'Or voisine, au château du Clos de Vougeot, les 29 et 30 septembre prochains, un délicieux salon au cœur du vignoble, dont l'entrée est libre et gratuite. Notez bien les dates, les 29 et 30 septembre prochains. De passage, le 15 juillet dernier dans Lyon, nous avons eu le plaisir de rencontrer Bertrand Renard, l'animateur des chiffres et des lettres venu participer au festival Paroles et Musique qui s'est tenu à l'abbaye de Régny, non loin de Vermenton. À cette occasion, nous avons choisi de découvrir et de mettre en avant une autre facette du Monsieur Calcul du jeu télévisé diffusé sur France 3. En effet, de formation littéraire, Bertrand Renard est l'auteur de plusieurs ouvrages que vous allez découvrir dans l'entretien qui va suivre. Pour commencer, j'ai demandé à Bertrand Renard de nous confier les souvenirs de lecture de jeunesse qui ont fasciné sa sensibilité.
J'ai deux révélations. Le livre que j'emmènerai sur une île déserte parce que je m'y retrouve, et de toute façon il faut tout de même sur une île déserte ne pas avoir un livre de 25 pages, mais un livre, donc c'est la recherche.
Voilà. Ah carrément.
Oui, c'est la recherche. Ça fait au moins 3000 pages et j'ai le temps, mais bon, je m'immerge avec beaucoup plus de bonheur que dans de très longs textes comme les Mémoires d'Outre-Tombe, qui sont admirables, bien entendu aussi. Mais c'est la recherche. Mon premier grand événement littéraire, mon premier coup sur la tête était une lecture théâtrale. C'était la Cantatrice chauve de Ionesco quand j'avais 13 ans, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la littérature autrement et qu'on pouvait utiliser le texte et le sens du texte autrement.
Alors le théâtre, vous en faites?
Alors j'ai fait
plutôt en tant qu'acteur.
Voilà, c'est une expérience que j'ai effectivement pratiquée ce printemps avec mon ami Ariel. Nous avons eu la chance de jouer des pièces de Guitry en un acte, et effectivement c'était un peu... Vous savez, on gravite tout de même. Enfin, quand on fait de la télévision, je vais pas dire qu'on est tous des acteurs rentrés, mais enfin, il y a quelque chose qui nous titille. Il faut savoir incarner un personnage qui est loin de nous et y réussir. Donc, c'est peut-être une vocation sur le tard entre ces Guitry, entre cette expérience de récitant de l'histoire du soldat sur ce texte qui n'est pas du tout évident, et en plus qui demande aussi un peu de connaissance musicale, puisqu'il y a des morceaux qui doivent être scandés sur la musique, donc il y a une vraie rythmique que les chefs d'orchestre vous attachent à faire respecter si vous aviez la maladresse de ne pas le faire.
Alors, Bertrand Renard, on découvre que vous avez écrit des ouvrages, ce que peut-être un grand nombre d'auditrices et auditeurs ignorent. Alors, il y a 30 ans, Sarlat et le Périgord noir.
Ça, c'était un joli livre, effectivement, qui avait été fait à l'instigation de Max Favalelli, qui avait sa famille dans ce coin-là, et son fils qui était libraire et sa belle-fille, et s'était improvisé éditeur et avait eu envie de faire un livre sur cette région magnifique et patrimoniale.
Gourmande aussi,
mais en mélangeant à la fois le côté justement guide et le côté raconteur d'histoire. Et donc je crois qu'on avait réussi, parce que c'est un texte, il y avait de très superbes photos, c'est un texte dont on parle encore. Alors qui est obsolète dans la mesure où, vous savez, c'est comme dans toutes les régions, on a énormément ouvert le patrimoine, beaucoup de châteaux, beaucoup d'abbayes, beaucoup d'églises ont été restaurées, beaucoup de sites ont été restaurés
l'inventaire est incomplet,
l'enrichir. Il faudrait l'enrichir, mais les gens qui l'avaient acheté à l'époque, j'ai encore des échos qui me disent: ah, je suis retombé sur votre livre, je l'avais pris comme guide, et c'était vraiment un guide au sens plein du terme, comme si vous nous teniez par la main pour nous faire visiter cette région.
Alors en 86, là on passe un peu vite, voyez le consonne oui, avec ça, Patrice Laffont.
C'était charmant, mais voilà, ça n'avait pas d'intérêt littéraire.
Et alors là, vous en êtes beaucoup plus fier, 1991, Les Gardiens du Clocher, un recueil de nouvelles aux éditions François Bourin.
C'était des nouvelles fantastiques, effectivement, et ça n'est pas évident de commencer en littérature par des nouvelles, et effectivement François et son équipe... m'avait fait, je ne vais pas dire l'amitié, parce que bon, ce ne sont pas des philanthropes, mais enfin voilà, m'avait donné l'opportunité de faire mes premiers pas, et j'ai suivi ensuite, alors avec Les Étangs, effectivement, qui est un livre...
Alors, 850 pages. Aussi...
850 pages.
Et récompensé par le Grand Prix de la Société des gens de lettres,
ce qui est... Les gens du milieu littéraire le savent, c'est un prix qui est extrêmement honorable, voire plus. C'était une grande saga politique et fantastique qui était, si vous voulez, un climat. C'était entre le désert des Tartares de Buzzati et le rivage des Sirtes de Julien Gracq. On était dans cet esprit-là.
Ambitieux, littérairement parlant.
Oui, mais j'aime bien, c'est un peu comme l'histoire du soldat qui était un défi, j'aime bien euh, Enfin, j'aime bien l'ambition. Quel est l'intérêt de faire des petits trucs? C'est pour ça que je suis passé rapidement sur Voyelles consonnes. C'était un recueil qu'on avait fait avec Patrice à la demande d'un éditeur où on racontait des anecdotes alors qu'on est sur les chiffres et les lettres qu'on essayait de rendre les mieux écrites possibles. Mais ça n'a pas d'intérêt. Moi, je ne vais pas dire que j'aime me surprendre parce que je ne me surprends pas. Je sais que je vais vers ces climats-là et ces ambitions-là et ces désirs-là. Donc,
c'est sortir aussi peut-être un petit peu du rôle de l'animateur dans lequel on vous...
Alors, l'énorme difficulté, effectivement, ensuite, c'est de faire passer le message. Alors ça n'est pas forcément à moi de le faire. Moi, je le fais le mieux possible quand on m'interroge. Mais encore faut-il, effectivement, qu'il n'y ait pas... qu'il y ait la curiosité. Et la curiosité, elle peut passer aussi par des critiques littéraires. C'est vrai qu'à l'époque, celui-là, comme Le Double Secret qui a suivi, qui ne faisait que 500 pages, n'ont pas été forcément lus. Enfin bon, tout ça dans des rentrées littéraires où vous trouvez au milieu de 450 ou 500 pages, et on se dit, oh, bah, tiens, un homme de télévision, qu'est-ce qu'il vient faire là?
Vous pensez qu'on vous a regardé avec un peu de mépris?
On n'a pas forcément été lire, j'en suis persuadé.
Pas prioritairement.
Puis un livre de 850 pages, on se dit, j'avais eu des échos, hein, je savais tout de même de quoi il s'agissait, de certains critiques de journaux prestigieux qui avaient commencé, qui trouvaient ça très intéressant, puis après, pouf, on passe à autre chose. Et puis, j'ai tout de même, je vais me récupérer le Grand Prix de la Société des gens de lettres. L'autre jour, Yann Moi m'a fait de grands compliments auxquels j'ai été sensible en me demandant pourquoi je n'avais pas continué. Mais je continuerai, j'y reviendrai.
Alors
mais
justement,
oui.
Pardonnez-moi,
quels
sont les projets à l'heure actuelle?
Je ne sais pas. Il y aura de...
Mais
il y aura sûrement de la littérature. J'y reviendrai parce qu'effectivement, ceux qui m'ont lu à l'époque regrettent aussi... pardon, j'allais poser un problème à votre micro. Il y a ça. J'ai des manuscrits dans mes tiroirs que je ressortirai. Je vais même peut-être profiter de l'été pour en relire un ou deux et voir un peu ce que je peux en faire. Je vais évidemment continuer dans la musique puisque aussi cette histoire du soldat est arrivée parce que depuis plusieurs années je suis dans un groupe qui monte des opérettes et en particulier des Offenbach sur la région parisienne. Malheureusement pour les gens de province, mais là on va monter Barbe Bleue d'Offenbach après avoir monté La Belle Hélène du même l'année dernière. Et c'est un immense plaisir, c'est le plaisir du chant, donc il y a ça. Le Guitry, on l'a rodé à Paris, on espère pouvoir le promener en province. On a d'ailleurs déjà des gens qui nous disent, il faudrait que vous veniez le jouer. Donc,
avec Ariel.
Avec Ariel, oui, bien sûr.
Ariel. C'est aussi un fil d'Ariane.
Oui, c'est aussi un fil d'Ariane, exactement. Et puis, effectivement, je vais me remettre à la littérature, à d'autres projets sur lesquels il faut que je travaille, des propositions sur les mots, mais effectivement le travail de l'écriture est quelque chose à quoi il faut vraiment que je me remette. J'ai fait des petites préfaces cette année pour les éditions de l'Olivier, pour des recueils de mots croisés qui m'avaient demandé et effectivement je me suis surpris à leur sortir des préfaces qui étaient des préfaces, m'ont-ils dit, de purs écrivains, alors sur un format qui était plus celui de Vialat enfin des chroniques de Vialat que sur évidemment les 850 pages des Étangs, mais bon je me suis dit ça n'est pas tout à fait rouillé et il y a encore du jus à donner peut-être.
Alors rappelons aux auditrices et auditeurs de Radion donc que l'on peut lire les textes de Bertrand Renard.
Oui, ils sont encore disponibles.
Hein, Les Gardiens du Clocher.
Absolument. Ou en tout cas sur... Alors, Le Gardien du Clocher, je sais que j'ai une auditrice qui m'a dit que de toute façon, elle l'avait trouvé sur Internet. Parce que bon, effectivement... Mais Les Étangs...
Les Étangs, c'est Julien.
Essayez, de toute façon, le miracle d'Internet fait qu'on arrive
oui.
à...
Et Le Double Secret, donc,
c'est chez Flammarion. Voilà, chez Flammarion.
Donc, on aura bien compris que Bertrand Renard a plus d'une corde à son arc.
Voilà, et qu'on est bien loin, des mathématiques dans cette affaire parce que je ne vous en ai quasiment pas parlé mais je n'ai rien à en dire en fait.
L'animateur des chiffres et des lettres Bertrand Renard rencontré au Relais Fleury à Avallon le 15 juillet dernier. Dans quelques minutes, après la pause musicale, nous reviendrons sur le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie et sur le cessez-le-feu du 19 mars 62 avec un livre de René Schmitt qui, aujourd'hui, à 76 ans, livre un témoignage personnel sur son service militaire effectué en Algérie entre juillet 1958 et février 1959. Quand la Méditerranée traversait la France, c'est sous ce titre que René Schmitt a rassemblé les 180 lettres qu'il a écrites à ses parents durant cette période troublée. On y revient dans quelques minutes dans votre émission littéraire, c'est Wagon Livre, tous les mercredis à 21h sur Radion. Juste avant la pause musicale que vous venez d'entendre sur Radion, j'ai précisé que nous évoquerions le livre de René Schmitt. Ce livre a pour titre « Quand la Méditerranée traversait la France » et René Schmitt, aujourd'hui âgé de 76 ans, installé à Chenôve, en Côte d'Or donc, René Schmitt a retrouvé le courrier qu'il envoyait entre juillet 58 et février 59 à ses parents en métropole alors qu'il était appelé du contingent en Algérie. Et il relate jour après jour sa guerre d'Algérie sous forme donc de courrier familial et c'est l'objet de ce livre « Quand la Méditerranée traversait la France », un livre de 360 pages. Il y décrit l'incorporation donc d'un jeune appelé du contingent de 22 ans, il y évoque ses classes dans l'armée du train, la vie à la poste aux armées, ainsi que son séjour en milieu hospitalier. Alors, 50 ans après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, le livre de René Schmitt apporte un témoignage personnel, utile bien évidemment, d'un bourguignon appelé à participer à une guerre inavouée. Ce livre n'est pas vraiment commercialisé puisque René Schmitt l'a réalisé pour sa famille et également pour certains de ses amis. C'est un livre qui est préfacé par Jean Vigreux. Jean Vigreux qui est enseignant d'histoire contemporaine à l'université de Franche-Comté. Et en juillet dernier, au cœur du Morvan, lors du Salon du Livre d'Anneau, nous avons rencontré René Schmitt et nous lui avons demandé dans un premier temps de se présenter à notre micro.
J'ai donc 76 ans et je suis bourguignon. J'ai des attaches à Anneau, Cussy et Saumont, donc ce sont des villages tout à fait voisins, et j'habite la région dijonnaise.
Vous venez donc de faire paraître en auto-édition un recueil de lettres, des lettres que vous avez écrites. Vous étiez donc un jeune homme appelé du contingent. Vous avez fait votre service militaire en Algérie à partir de l'année 1958. C'est-à-dire l'année du retour de De Gaulle au pouvoir, mais la guerre d'Algérie avait commencé depuis 4 ans.
Oui, mais écoutez, j'ai donc stationné en Algérie pendant 8 mois, 9 mois même, et j'ai terminé mon service, et on anticipe déjà sur la fin, mais j'ai terminé mon service sur Dijon, où j'ai été rapatrié sanitaire au bout de 9 mois suite à une maladie assez grave. Enfin, c'était une jaunisse très très grave.
Vous avez donc retrouvé
les lettres que vous avez écrites à vos parents pendant votre service militaire, donc des courriers que vous avez relus avec 50 ans après les avoir rédigés.
Oui, et puis c'est pour répondre un petit peu à ma guerre aussi. Il y a toutes sortes de guerres, des guerres mondiales, des guerres coloniales, ainsi de suite. Et c'est pour répondre aux questions de mes petits-enfants. J'ai donc ressorti ce courrier que j'avais conservé religieusement. Et moi, pour moi, c'est presque un trésor de retrouver des expressions et surtout des sentiments que j'avais vécu avec des camarades qui venaient de toutes sortes de régions de France, qui avaient toutes sortes de cultures. Et ça m'a vraiment... De ce côté-là, me paraît très très important.
Vous avez donc classé ces lettres, bien évidemment, dans l'ordre chronologique. Certaines même sont, certaines d'entre elles portent même l'heure. Hein, il y a une certaine précision. Alors, comme vous dites, ce sont des écrits très personnels, avec peut-être des détails qui aujourd'hui peuvent paraître superflus pour le lecteur de 2012.
Peut-être, mais là, ça a peut-être la valeur de ce document qui, bon, c'est une petite histoire personnelle qui rejoint peut-être la grande histoire. Enfin, c'est tout au moins l'opinion de Jean Vigreux qu'un certain nombre d'auditeurs de la région Bourgogne connaissent, puisqu'il est maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Et il est éminent, c'est une éminente personne qui m'encourageait à publier ce courrier. Mon propos, enfin mes questionnements, c'était savoir si j'en faisais un petit opuscule pour la famille à 20 exemplaires ou pour plusieurs centaines d'exemplaires.
Et à combien d'exemplaires est tiré donc votre recueil de lettres qui a pour titre hein, « Quand la Méditerranée traversait la France ».
Donc il est tiré à 350 exemplaires.
Et pour vous, ça vous a soulagé de faire ce travail ?
Ça m'a beaucoup soulagé parce que ça m'a libéré d'un certain nombre de poids, de choses qui sont non dites. Et ça m'a permis, comme je suis assez inséré dans le monde associatif de la région, un certain nombre de collègues se sont manifestés. J'ai reçu plusieurs dizaines de courriers, notamment de ces personnes qui jusqu'à présent n'ont jamais osé parler, des gens qui ont beaucoup souffert, notamment une personne qui m'a dit « Merci pour votre bouquin, parce que j'étais pendant 40 ans dans la déprime et j'arrivais, grâce à votre livre, de pouvoir parler à ma femme d'une manière tout à fait sereine. » Et c'est une thérapie, en fait. Il y a beaucoup de gens, et on est dans l'année du 50e anniversaire des accords d'Évian, ce qui n'est pas chose très, très facile à vivre pour un certain nombre de personnes. Et bon, je pense que c'est important d'apporter ce témoignage.
Je n'ai fait que parcourir votre livre, et je m'en excuse, mais... Quels sont les moments forts ou cruels que vous avez éprouvés pendant ce service militaire en Algérie entre 58 et 59 ?
Ben, fort et cruel, je viendrai tout à l'heure à votre propos, mais je voulais simplement dire que ce que j'ai trouvé d'abord de positif, c'est une grande, grande camaraderie et un grand partage. Notamment le brassage de toutes les catégories sociales, des gens riches, des gens pauvres, et on est tous mis dans le même chaudron et il faut marcher. L'autre question qui me préoccupe, c'était bon, dans l'armée professionnelle, il y a des gens de très, très grande valeur qui avaient la lourde charge de faire marcher les troupes, mais il y avait des gens aussi qui étaient, notamment des petits sous-officiers qui étaient chargé de nous en faire baver, quoi. Et c'est là, c'est la, je ne vais pas dire l'avilissement de l'homme, mais pas loin, quoi.
Vous avez connu quand même des moments de déprime,
des moments de brimade. Des brimades qui étaient difficiles à accepter. Pour quelqu'un qui avait un minimum d'éducation, nous faire mesurer la place d'armes avec des allumettes, ramener des bouchons brûlés pour s'en faire des marques. On n'avait pas forcément des bouchons de liège. Mesurer une place d'armes comme une place de terrain de foot avec des allumettes, bon, ça ne me paraît pas forcément intelligent.
Et on vous a fait faire ce genre de...
Ah oui, puis alors, bon, ce qu'il y a aussi, c'est des récits. Moi, donc, je n'ai pas été en unité combattante, mais j'ai eu des récits de copains de grande valeur, dignes de confiance. Et ça rejoint un peu la grande histoire dans laquelle il y a eu des exactions, des tortures des deux côtés, du côté belligérant, et c'était très 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 dur à vivre.
Alors, soyons bien d'accord, donc vous n'avez pas véritablement combattu contre les Felaga ou
je n'ai pas eu d'action violente, non.
Et vous aviez des échos tout de même ?
Des échos, et c'est le livre me raconte ce que j'ai entendu par des gens dignes de foi, et puis ça rejoint un petit peu tous les articles qui ont pu paraître depuis, les articles à l'époque qui parlaient des anomalies. Et ce livre a fait réagir un certain nombre de personnes, parce que là, je prends position d'une manière assez... je peux dire politique, mais un certain nombre de copains ont trouvé curieux que le général Bijard, on propose des honneurs au général, ou la dépouille du général Bijard, alors qu'on n'en fait pas tant d'écho, par exemple au général de Bollardière, qui lui a été totalement opposé à la pratique de la torture, donc il a démissionné de l'armée.
Le jeune homme qui écrit à ses parents, le jeune homme qui fait son service militaire en Algérie, est-ce que le jeune René Schmitt, qui a donc 22 ans, est-ce que vous cachez, est-ce que vous vous auto-censurez, cachez-vous certaines choses qui pourraient faire du chagrin à la maman ou au papa ?
Je n'ai rien, j'ai peut-être un peu atténué un certain nombre d'événements qui se passaient, mais je n'ai pas enjolivé du tout. Je n'ai pas enjolivé. Et pour la petite histoire qui n'en est pas une, donc c'est 180 lettres, mes parents répondaient pratiquement par retour. Donc je pourrais, c'est du fantasme, je pourrais rééditer un courrier ce qui se passait en Bourgogne pendant 9 mois, puisque j'avais le détail de toute la vie qui se passait, aussi bien vie familiale que la vie politique du coin. De la région.
Rappelons la référence du livre dont il vient d'être question au micro de Wagon Livre par son auteur, René Schmitt. Il s'agit donc de « Quand la Méditerranée traversait la France ». Votre émission littéraire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 21h, mercredi 5 septembre, pour une émission de compte-rendu du 16e Salon du Livre d'Anneau qui s'est tenu au cœur du Morvan les 21 et 22 juillet dernier. Excellente soirée à l'écoute du programme musical de Radion. Merci encore de l'attention que vous portez à ce magazine culturel sur votre radio locale. Bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.